on avait commencé un petit voyage dans les Hébreux et on va le reprendre et continuer. Je refais juste un très rapide survol. Hein. On était dans ces chapitres-là d'Hébreux. Le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Hein. Et puis c'était le tabernacle vu de l'extérieur. Je ne reprends pas tout ça. On s'en va là. Vu de l'intérieur, vous vous rappelez, l'Arche de l'Alliance. Et puis, voilà, surtout ce qu'on avait développé, c'est que cet endroit là-bas, il y a un truc, pour... non, c'est pas grave, c'était inaccessible. Hein. Il y avait un sacrificateur parmi les sacrificateurs qui rentrait une fois dans l'année et puis il faisait tout ce qu'il fallait, il mettait son super costume de super sacrificateur en lin, sans couture, machin, truc, mais il rentrait pas en faisant le malin, quoi. Parce qu'il y avait des précédents et puis des, hein, vous vous rappelez les moustiques qui arrivent sur le truc bleu là, et puis c'est fini quoi. On m'a dit que sur les messages enregistrés sur internet, quand je fais c'était très désagréable. Donc je me suis dit je vais plus jamais faire le sur le petit plaisir comme ça. Hein, mais sérieusement donc voilà le souverain sacrificateur qui partait là-bas c'était comme un moustique qui devait livrer un courrier sur un de ces machins bleus là. Hein. Il y allait mais ne sachant pas s'il allait revenir. Hein. Ça c'est l'historique et pendant quelques centaines et centaines d'années ce peuple qui était celui qui allait recevoir Jésus ont vécu avec cette c'est pas une peur, mais quand même, cette peur collective qui était ancrée en eux, ça c'est l'endroit où on ne plaisante pas, quoi. Rentrer là, on ne fait pas les malins, quoi. Celui qui y va, il risque sa vie. Puis avant d'y aller, ben, voilà, il met la tenue, il met le costume, il sacrifie le sang. Il y a un rituel hyper compliqué. Puis il fallait le suivre à la lettre parce que c'est dangereux, quoi. Hein. Ça c'était l'idée. C'était quasi inaccessible. Hein, vous vous rappelez, on lui mettait une corde au pied parce qu'au cas où il faisait une mauvaise manœuvre, personne ne voulait aller chercher le corps. Puis si on le laissait un an, ça ne sentait pas bon, donc on pouvait en tirant la corde ramener le bonhomme parce que personne ne voulait aller le chercher. Quoi. Donc là, on dit ça en plaisantant ce matin, c'est un peu le but, mais c'était très très sérieux, très lourd. Hein. Et puis tout ça, ça nous parle du fait que Dieu est inaccessible et puis qu'on peut faire tout ce qu'on veut, s'approcher de lui. Ben, on est les petits moustiques qui s'approchent du machin bleu et pfff, ça grille. Et puis, voilà. Et Christ vient, et lui, il est ce souverain sacrificateur qui n'a même pas besoin de faire du spécial, de mettre un super costume, parce qu'il ne doit pas devenir quelque chose, il est. Et lui, il invente quelque chose de nouveau, c'est la contagion positive. Toute la loi de Moïse, c'était attention de ne pas toucher ça, vous devenez impur, touchez pas ça, vous êtes impur, touchez pas ça, vous êtes impur, touchez pas ça, vous êtes impur, et puis il y en a des pages et des pages comme ça, et Jésus, il arrive, il est pur, et il touche tous les trucs impurs. Et c'est eux qui deviennent purs. Hein. C'est la contamination positive. Et ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que c'est tellement triste que le christianisme, souvent, dans le côté religieux, soit assimilé à... On ne peut pas se mélanger avec lui, il n'est pas assez pur, pas avec lui parce qu'il n'est pas assez pur, parce qu'avec lui, parce qu'il n'est pas assez pur. Mais c'est le contraire de la bonne nouvelle. C'est que Jésus, ah ouais, on ne doit pas toucher les femmes. Ah bon, on ne doit pas toucher les prostituées. Ah bon, on ne doit pas toucher les femmes prostituées qui ont leurs règles. Voilà. Hein. Ah, on ne doit pas toucher les lépreux. Ah, viens ici. Là. Non, mais bon. Et c'était presque de la provocation, mais ce n'était pas un jeu non plus. C'est que tout ce qui était impur, il le touche. Mais ce n'est pas lui qui devient sale, c'est... celui qui a son contact, qui devient pur. Donc lui, il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour entrer là, mais quand même, il y rentre avec son propre sang, hein, puisqu'il offre sa vie pour nous, donc il y a quand même le sang qui doit couler, pas à cause de lui, mais à cause de nous, c'est le contraire, quoi. Hein. C'est la chose à l'envers. On rentrait avec le sacrificateur, il rentrait avec le sang d'un animal innocent, puis là, c'est le sacrificateur innocent qui rentre avec son propre sang pour nous qui sommes pécheurs, mais pour que nous puissions vivre la contagion positive, hein, la purification par contamination. On touche et hop, c'est pas nous qui devenons impurs, c'est l'autre qui est pur. Voilà, donc ça c'était un petit peu le contexte qu'on avait vu. Ça, c'était là, là. Voilà, ça c'était pour ceux qui... Hein, voilà. Indiana Jones ne l'a pas trouvé, mais nous, oui. Voilà, on arrive au texte d'aujourd'hui. Lorsque Dieu fit la promesse, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité ». Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. On va s'arrêter déjà sur ce texte-là. Alors, on peut se demander, c'est quoi ces deux choses immuables que Dieu nous a proposées? Ben, tout simplement, à cette époque-là, quand il y avait un litige entre des gens, justement parce qu'il y avait tout ce contexte de la crainte de Dieu, où il y avait quand même des exemples de menteurs foudroyés par le ciel, etc. Si on ne pouvait pas juger, savoir qui a tort, qui a raison, alors les gens prêtaient serment. En prêtant serment, il disait « Là, je me tiens devant Dieu et je dis que ce que je dis est juste. » Et on considérait que celui qui faisait ça, il disait la vérité parce qu'il jouait sa vie là-dessus. Et Dieu, lui, déjà, Dieu ne ment pas parce qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas mentir. Mais c'est comme si, pour nous rassurer, parce qu'il sait que nous, on a du mal à... on sait, mais on ne sait pas. On croit, mais on ne croit pas. Hier soir, je parlais avec une jeune cousine de Virginia, une charmante jeune femme. Puis elle était très enthousiaste dans sa vie avec Dieu et tout. Puis elle a quitté son pays, elle fait plein de trucs. Puis elle dit, mais quand même, j'ai l'impression que des fois, j'ai du mal un peu à lui laisser les commandes dans ma vie. Puis c'était amusant parce qu'elle était tellement fraîche, comme si c'était... Il y avait qu'elle qui avait cette difficulté-là, mais tout le monde maîtrisait ça, quoi. Je disais, ça, je ne sais pas combien tu vas vivre encore, mais il te reste toutes les années qui te restent pour essayer de le vivre un peu, puis tu n'y arriveras toujours pas, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Donc Dieu sait qu'on a du mal, même si, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi, c'est notre vie. Alors, il, comme si sa parole n'était pas suffisante, alors qu'elle l'est, mais en plus, il fait un serment. Il se met, et surtout à cette époque-là, ça avait ce sens-là. Donc c'est ça, ces deux choses qui sont immuables, c'est le fait que Dieu ne ment pas, bien sûr, mais en plus il fait un serment, parce qu'il veut que nous trouvions un puissant encouragement. Alors déjà, un encouragement, c'est chouette. Moi, j'aime bien quand je suis un peu découragé, que je reçois un encouragement. Mais un puissant encouragement. Et puis, puis alors les mots qui sont utilisés sont vraiment des mots très très forts. Bon, en français aussi, puissant, mais puissant encouragement. Pas juste, vous savez, quand vous n'allez pas bien, c'est compliqué, puis quelqu'un vous dit, tu sais, ça va aller. Ouais, merci. Ouais, un jour ça va passer. Ben oui, un jour je serai mort, ça ira mieux. Non, mais ça, c'est pas un puissant encouragement, ça, Ça, c'est une bonne intention quand même, attention, parce qu'il y a ceux qui font semblant de ne pas voir que vous n'allez pas bien pour vite pas s'en occuper, quoi. Donc c'est déjà gentil de dire, ça va aller mieux, tu sais, tout le monde a ses petites difficultés. Non, un puissant encouragement, c'est pas ça. Un puissant encouragement, c'est le fait que Dieu nous rappelle qu'il y a une alternative, mais pas un plan B, C, B', ou je sais pas quoi, non. Ou déprime, même, ça c'est les pires, les plans de déprime. C'est le plan A++++++. Le puissant encouragement, c'est qu'il existe autre chose. Pas une amélioration de ce qui ne va pas bien, mais autre chose, de meilleur. Parce que, effectivement, Marc-André me l'a lu au début, souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, parce que quand tu es jeune et que tu crois que c'est difficile, tu ne sais rien, parce que ça va être juste encore plus difficile, et puis ça va être toujours plus difficile jusqu'à ce que ce soit tellement difficile, et puis un jour tu meurs. Voilà, ça c'est la vie. Si vous étiez de bonne humeur ce matin, je vous ai gâché la journée. Mais si je vous disais autre chose, je mentirais. Puis tous les gens qui sont un peu plus âgés que moi, et puis en ce moment on accompagne quand même pas mal de nos amis proches ici, qui arrivent un peu au bout du chemin, puis... aller leur dire, tu sais, ça va aller. Non, quand on va voir Marty, sous morphine, qui ont pris que ça s'arrête parce qu'il n'y a plus rien, on ne lui dit pas, tu sais, ça va aller. Non, ça, c'est... Mais elle a un puissant encouragement. Son puissant encouragement, c'est quoi? C'est qu'il y a autre chose. Ce n'est pas un peu plus de morphine, un peu moins de douleur, ce qu'on veut de toute façon, mais ça, c'est ce qu'on doit faire. Il y a autre chose. Et c'est triste de se dire que des fois, on doit attendre d'en être là pour découvrir qu'il y a autre chose. Parce que l'espérance, justement, qui nous est proposée, on va le voir après, c'est pas juste que serrer les dents et tout ce qu'il y a à serrer pendant la vie sur Terre, parce que au ciel, ça ira mieux. Ouais, d'accord, mais là on est vivant et il y a autre chose aujourd'hui. Et si on est honnête, cette autre chose, on le découvre rarement quand tout va bien. C'est comme ça, tous pareil. Mais heureusement pour nous, comme la vie va rarement toujours bien pendant tout le temps, même plutôt le contraire, on peut le découvrir. Donc il existe ce puissant encouragement qui n'est pas juste des paroles de, tu sais, après un jour ça ira mieux. Non, c'est aujourd'hui, maintenant, la vie éternelle, vous vous rappelez cette fameuse vie éternelle, dont la principale caractéristique n'est pas qu'elle n'a pas de fin, puisque l'enfer aussi n'a pas de fin. La vie éternelle, c'est une qualité de vie qui est celle qui se vit quand on est dans la présence de Dieu. C'est ça le puissant encouragement. C'est pour ça qu'on peut aller voir quelqu'un qui est dans un état dramatique et en ressortir, nous, encouragés, alors que nous, ça va à peu près. Pourquoi ? Parce qu'on a passé un moment avec quelqu'un qui a trouvé ce puissant encouragement. Pas juste cette petite satisfaction de j'étais au culte dimanche matin, je vais un peu à l'église, je donne 10 francs, alors je suis un gentil chrétien. Ça, c'est pas un puissant encouragement, ça. Non, il y a autre chose, quelque chose de meilleur, quelque chose de largement meilleur. Et puis, c'est dans un autre niveau. C'est pas un peu plus d'argent, un peu moins de maladies, un peu plus de célébrité, un peu plus de ci ou de ça. C'est pendant qu'on traverse cette vie, qu'on doit traverser au mieux possible, il existe autre chose. Voilà. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Pourquoi ? Alors, je me suis dit, on est sur la bonne photo, c'est bon. Oui, on viendra après au reste. Pourquoi le seul refuge ? En réalité, des refuges, on en a plein. Quand il nous reste un seul refuge, c'est qu'on a fait le choix de refuser tous les autres. Et ça, c'est la chose la plus difficile et la plus courageuse du monde. Vous vous rappelez, il y a un petit moment, pour ceux qui sont là régulièrement, je vous avais décrit cette image horrible, où on est seul, tout nu, au bord du vide, et on dit à Dieu, je ne vais rien faire tant que tu ne m'auras pas rempli. Ça, c'est l'acte le plus courageux du monde qui existe. Aller affronter 3 dragons avec un couteau suisse, ça c'est de la blague, c'est rien. Parce que les couteaux suisses sont efficaces. Non, il y a plein de choses, c'est rien, c'est de la blague, c'est pas de l'héroïsme. Désolé David, même avec une armure et une épée, non. Mais refuser tous les autres subterfuges et dire à Dieu, ce vide-là qui est à l'intérieur et qui me bouffe, je refuse de le faire disparaître avec ma carte de crédit, un peu plus de musique, un peu plus d'alcool, un peu plus de ci, un peu plus de ça, un peu plus d'autre chose, un peu plus de bruit, un peu plus d'agitation. Et je vais faire mieux, je vais enlever les 3 trucs qui me restent, mes 4 feuilles de figuier, et je vais rester tout nu là, ici, comme ça. Et où tu vas me remplir, où je vais mourir là. Nous, dont le seul refuge a été de saisir cette possibilité que Dieu nous donne de nous remplir de cette plénitude qui fait que tout le reste devient des broutilles. Parce que dans ce petit moment-là, qui ne dure pas, qu'on peut revivre, mais il y a ce petit moment-là, on comprend ce que c'est ce puissant encouragement, parce que tout d'un coup, on a accès à cette autre réalité qui n'a rien à voir avec des coutumes, des rites chrétiens, des traditions, des ci, des ça, des chants, des machins. On est rempli de ce Dieu qui est infini, donc ça paraît impossible, mais on est rempli de lui. Et pendant ce moment-là, il ne nous manque rien. C'est des fois très court, des fois ça dure un petit peu plus, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Il ne me manque rien. Vous connaissez ces petits moments, j'espère que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage à relever ce défi, d'accepter de dire, ok, j'éteins ça, j'arrête ça, je pose ça, j'arrête de courir, de faire des choses, même des choses pour Dieu, ça n'a rien à voir, mais voilà, de bouger, et puis juste dire à Dieu, je veux ce seul refuge-là, je veux ça. Et comme on ne le fabrique pas, qu'on ne peut pas le produire, qu'on ne le maîtrise pas et que ça ne dépend pas de nous, ça veut dire qu'on doit accepter la faiblesse la plus totale. Je ne maîtrise plus rien, je ne contrôle plus rien, je n'ai plus rien dans les mains et j'attends. Et puis tu vas le faire ou je vais mourir desséché ici, hein? Et il va le faire, hein? Mais jamais de la même façon, jamais pareil, jamais. Mais... Et puis à un moment, pouf, c'est là, on est rempli, là on se dit, ah, si je pouvais mourir maintenant, ça ne serait pas qu'on soit suicidaire, mais ça serait génial parce que là, il ne me manque rien. Hein? Ce puissant encouragement, le seul refuge. Et il faisait allusion, je ne vais pas le développer longtemps, mais à une très très belle chose, à une époque où, donc quand ces textes, pas quand l'Épître aux Hébreux, mais l'Épître aux Hébreux fait référence à l'époque où la loi a été écrite, donc très longtemps avant, hein. Et c'était une époque où la justice était assez sauvage, hein. Si quelqu'un tue quelqu'un de ma famille, ben, j'avais le droit de prendre mon épée, puis moi j'allais y couper la tête, puis c'était réglé. On ne s'embêtait pas avec la police, les preuves, les juges, ces machins-là, quoi, hein. C'était le droit du sang, c'était comme ça. Tu as tué ma mère, je tue ta mère et ton père, et puis c'est fini. Et puis c'était ça créait ce qu'on appelle aujourd'hui les vendettas ou ces choses-là. Hein. C'est, alors tu as tué mon père et ma mère, ben je tue ton père, ta mère, ton frère et ta grand-mère. Et puis toi. Et Dieu savait que le cœur de l'homme, comme ça, dans sa vengeance, est tellement méchant que ça peut ne pas s'arrêter, hein, ou ça ne s'arrête pas. Et donc, il avait prévu un truc assez incroyable pour l'époque, parce que ça n'existe pas ailleurs, dans ce que j'ai pu trouver en tout cas dans mes recherches historiques sur l'époque. Des villes de refuge à une distance maximum d'une journée de marche, enfin plutôt de course, parce que là, quand même, dans ces cas-là, quelqu'un qui avait tué quelqu'un d'autre, on dirait aujourd'hui sans préméditation et accidentellement, hein, ça s'appelle comment ? C'est un homicide involontaire ? Par négligence, et voilà. Alors, normalement, ben, c'était œil pour œil, dent pour dent, donc même j'ai pas fait attention, mais voilà, j'ai tué quelqu'un par accident. Je sais que le vengeur du sang dans sa famille va venir pour me couper la tête. Alors qu'est-ce que je fais ? Elle est où la ville comme ça la plus proche ? Puis tout le monde les connaissait bien. Hein. Et là, je laisse tout, bien sûr, mais je pars en courant et je vais dans cette ville. Et tant que je ne sors pas du périmètre de cette ville, on n'a pas le droit de me tuer. Sauf que je dois rester dedans. Et puis, parce que bah, tout était prévu, c'était assez incroyable, hein. Comme modèle social, c'était fantastique. Jamais personne n'a essayé de le mettre en pratique, mais c'était génial. On ne pouvait pas passer non plus une éternité dans cette ville, parce qu'il y avait quand même des affaires à régler. Alors, on devait y rester jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Ça pouvait être assez long s'il venait juste d'être élu, hein. Mais en fait, il y avait quand même une durée. Le jour où le souverain sacrificateur, dont le chef des prêtres, mourait, tous les gens qui s'étaient réfugiés dans ces villes, ils pouvaient ressortir. On n'avait pas le droit d'aller se venger sur eux. Bon, peut-être qu'il y en a qui le faisaient, mais après, ça continuait. Hein? Mais voilà, la loi était faite comme ça. Et pour nous, ce qui est magnifique dans cette image-là, c'est que c'est qui notre grand souverain sacrificateur ? Ben, c'est Christ, on l'a dit au début. Et lui, ben, il est mort. Donc moi, cette ville de refuge, j'ai le droit d'y aller, mais je peux en sortir parce qu'il est mort, une fois pour toutes. Hein? Et je ne suis plus poursuivi par le vengeur du sang. C'est-à-dire que les milliards de fois où je fais ce qu'il ne faut pas que je fasse, qu'on appelle le péché, mais c'est plutôt les manifestations du péché, ou juste c'est dans mes pensées, ou peu importe, hein, qu'est-ce que je fais ? Ben, je cours à cette ville de refuge, au lieu de dire « Ouais, mais tu sais, j'ai fait ça, mais Thomas fait bien pire, hein, je sais, je l'ai vu hier soir, je ne vous dis pas. Hein. » Et puis David, oh David, et puis... Et Marc-André, on ne dirait pas, mais... Hein. Donc finalement, moi... Hein, non, tant que je fais ça, je suis en danger parce que je ne suis pas dans la ville du refuge et le péché est le meilleur détective du monde, il va toujours finir par nous retrouver pour nous couper la tête. Hein, ça nous revient toujours dessus, toujours, 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 ça prend du temps mais ça revient toujours. Il y a un petit tracker qui est là et il nous retrouve toujours. Quoi. Mais il y a une issue, le seul refuge, la ville. Je m'approche de Christ, dans cet endroit où on ne pouvait pas rentrer là. Maintenant, moi, je peux y rentrer, c'est ça qui est incroyable. Je peux y rentrer sans corde aux pieds, sans trembler, sans être comme le moustique. Pas parce que je suis saint, au contraire, mais parce que Christ a fait cette brèche. Hein. La dernière fois que j'ai parlé de ça, Marc-André m'a rappelé, hein, quand Jésus meurt sur la croix, le rideau qui séparait... Allez, on se le fait. Tac, 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 voilà. Le rideau qui est là, hein, qui ici, c'est pas les mythes qui l'ont mangé, c'est pour que vous voyez ce qu'il y a derrière. Hein. Normalement, il est fermé complètement. Et puis c'est là, c'est l'endroit où on ne pouvait pas rentrer. Et au moment où Christ meurt sur la croix, ce rideau, il se déchire d'en haut vers le bas. C'est beau ça, hein? Il se déchire comme ça. En même temps que la lumière disparaît. Ça, c'est parce que la source d'énergie de l'univers devait être débranchée. L'électricien pourrait nous expliquer. Hein. Vous savez, ce tourbillon d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit, où chacun aime les deux autres. Et ça fait un tourbillon d'énergie qui fait que tous les atomes, tout ce qui tourne sur Terre, tout ce qui existe dans le monde, l'espace et le temps, c'est lié à ces générateurs d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et tout d'un coup, il y a un fusible qui saute parce que le Fils est séparé du Père et de l'Esprit. Et il n'y a plus assez d'énergie, il y a juste la petite lumière, la exit, là, qui assure le minimum pour pas qu'on soit tous désintégrés, mais il n'y a plus assez pour faire briller le soleil. Et à ce moment-là, le voile se déchire en deux. Hein. Mais depuis, nous avons libre accès, c'est notre lieu de refuge. Hein. On peut venir là. Et en fait, on peut ressortir immédiatement. Pourquoi ? Le souverain sacrificateur est mort. Hein. Nous, dans le seul refuge... si je ne cherche pas les autres, parce qu'il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup d'autres, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Saisir l'espérance. Vous savez, souvent, quand j'étais jeune, j'ai entendu parler du salut comme ça, c'était faux, mais j'ai entendu parler comme ça. Tu vois, tu es en train de te noyer, on te jette une corde, tu t'accroches à la corde, et tu es sauvé. Mais si tu lâches la corde, tu retombes à l'eau, et tu n'es plus sauvé. C'était terrible, vous imaginez, pour un enfant de 12 ans, se dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai assez tenu la corde? Je crois que je l'ai lâchée, ah, je la retiens, je l'ai lâchée. Heureusement, le fait que nous soyons réconciliés avec Dieu, ce n'est pas nous qui tenons la corde. Bonne nouvelle, hein, sinon ça serait dramatique. Hein. Il y a des gens qui ont des gros bras, mais même avec des gros bras, c'est long une vie entière à tenir la corde. Non, si j'accepte ce que Christ a fait, s'il vient à moi, si je suis régénéré par l'Esprit de Dieu, il a pris ma main, lui, et il la lâchera jamais. Rien ne pourra jamais les séparer de mon amour. Donc, on ne parle pas ici du fait qu'on soit condamné, rien à voir. Mais l'espérance, c'est à nous de la saisir sur terre. Rappelez 1 Corinthiens 13 à la fin, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, la plus grande c'est l'amour. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus besoin d'espérance, il y aura des choses à faire, mais il n'y a plus besoin d'espérance de cette façon-là. Hein. La foi non plus, parce qu'on va voir les choses. L'amour, bien sûr, c'est tout, ça sera toujours là. Mais sur terre, on a besoin de l'espérance. Et ça, c'est à nous de la saisir. Hein. Parce que, pourquoi ? Parce que l'espérance, c'est lié à l'amour, mais il faut c'est le consentement, c'est dire « oui, oui, je veux hein. ». J'ai dans les derniers chants qu'on a chantés ce matin, là, que j'aime beaucoup, à Notre Père, je suis à toi, et puis le deuxième ébloui, il y a cette idée de je veux, j'ai envie de, je te veux. Hein. Et puis, je te veux pour m'offrir à toi. Hein. Ce qu'on a vu hier, pour ce qui était là au mariage, l'amour, c'est jamais tu m'appartiens, c'est je t'appartiens. Et si l'autre dit je t'appartiens, alors on s'appartient, mais il ne m'appartient jamais. Je lui appartiens. C'est pour ça que dans les plus belles déclarations d'amour, c'est Renaud qui le dit. Il ne dit pas ma femme, il dit celle que je suis son mec. Alors, c'est peut-être pas très poétique, mais c'est comme ça qu'on doit parler dans l'amour. Hein. Et c'est pareil avec Dieu. Ce n'est pas mon Dieu, oui, c'est le Dieu hein, que je crois, mais c'est le Dieu auquel j'appartiens, mais parce que je m'offre. Et l'espérance, c'est quelque chose, c'est à nous de la saisir, mais elle nous est proposée, hein, de saisir l'espérance qui nous était proposée. Mais c'est à nous de la saisir. Pas le salut, l'espérance, oui, parce que ça dépend de nous, tout simplement, hein, de nous y accrocher, et toujours dans cette même démarche de dire à Dieu, ben voilà, je ne veux pas autre chose, je suis passé par la ville refuge, maintenant je suis libre, et je veux ce puissant encouragement, pas un ersatz d'encouragement, pas une sous-marque, pas une imitation, pas un petit machin, je veux le vrai, l'authentique, le seul, le puissant encouragement qui est, tu viens et tout le vide qui est en moi, tout l'espace qui a été laissé par toutes les blessures, les souffrances, les difficultés, les incompréhensions, les choses que je voulais, que je n'ai pas eues, tout ce qui a creusé, rongé en moi et qui fait que je suis, ah, je pourrais devenir amer ou triste, ou etc. Tout cet espace-là, je veux que tu le remplisses réellement avec ce mystère de ta vie en moi. Hein. Et puis, je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas y mettre du polystyrène expansé, je ne vais pas y envoyer de la mousse qui gonfle, je ne vais pas y mettre n'importe... Non, rien. Je vais affronter la douleur de ce vide, parce que ce vide, c'est l'espace où tu peux te manifester, et je vais attendre ce puissant encouragement-là. Et jusqu'à ce que tu le fasses, j'ai quand même une chose, j'ai l'espérance. C'est-à-dire, je sais que tu vas le faire. Je ne maîtrise pas quand, comment, où, pour combien de temps. Mais je sais que tu m'aimes et que tu vas le faire. Alors, je me tiens à ça tout nu au bord du vide, mais j'ai quand même cette corde et je la tiens parce que ça arrive, ça va venir. Ça arrive, ça va venir. Ça change la vie quand on attend quelque chose, qu'on sait qu'il va venir. Hein. Là, ce n'est pas la chanson de Brel. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais Madeleine ne viendra pas. Et puis, à la fin de la chanson, ben, Madeleine n'est pas venue. Non, j'attends parce que je sais. Oui, ça peut être long, mais je sais. Hein. Je ne sais pas si certains ont lu, je ne fais pas de la pub, mais dans mon livre de Noël, à la fin, il y a l'histoire de Siméon et de Anna. Non, mais sérieusement, il se moque de moi. Il a le droit, c'est mon fils. Mais quand j'ai écrit cette histoire, sérieusement, heureusement qu'on n'écrit plus sur le papier, j'écris sur mon ordinateur, j'aurais pu faire des courts-circuits. Je pleurais tellement j'étais touché par ces deux personnes, Anna et Siméon. Une vie entière à attendre pour 10 minutes. Une vie entière à attendre pour 10 minutes. Ces 10 minutes-là, elles valaient une vie entière. Mais ils n'ont pas perdu leur vie, hein. Mais toute une vie à attendre, et ce moment-là, où dans le temple, ils voient quoi en plus ? Un bébé qui pleure, qui est là, qui peut-être ne sentait pas bon, il n'y avait pas les couches et tout, hein. Et ils voient et ils savent, c'est lui. Et là, Siméon, qui a vécu plus longtemps que les gens de son âge, tout d'un coup, c'est « Waouh, je peux mourir en paix, j'ai vu le salut, je l'ai vu, c'est lui. » Il n'a rien vu, il a vu un petit bébé, il y en a plein de bébés sur la planète. Quoi. Mais non, c'était celui-là. Et sa vie entière, il était là, accroché à sa corde, tout nu au bord du vide. « Non, je ne vais rien faire d'autre parce que je le sais, il me l'a dit, je vais le voir. » Et puis tout le monde, il est fou, ce gars-là, c'est un fou furieux. Non, mais il est bien bordé, il n'a rien fait de sa vie à part attendre. Et puis maintenant, il va mourir. Mais c'est triste, mais le pauvre. Puis lui, il plaint les autres, ils ne savent pas ce que c'est. Quand on aime, ce n'est pas long d'attendre. Hein. Et j'ai oublié, il y a un superbe vers là-dessus, mais je l'ai oublié, tant pis. Hein. C'est genre, une heure, c'est long quand on n'aime pas, et puis une éternité, c'est court quand on aime. C'est mieux dit que ça, mais bon, tant pis. C'est l'idée. Hein. Et ils sont là, ils attendent. Et Anna, pareil, elle est veuve, s'est mariée, elle est veuve, et puis elle passe toute sa vie dans le temple, et elle attend, et elle jeûne, et elle attend. Et puis d'un coup, elle le voit, c'est lui. Il va venir. Donc nous avons cette espérance. Et elle pénètre pour nous au-delà du voile. Et je termine avec ça. Paf, 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 paf. Hop, non, c'était là. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a plein de détails qu'on va laisser, ça serait trop long encore une fois. Mais cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Et ça, je trouve ça magnifique. Quoi, hein. On voit le bateau, on voit la chaîne, on ne voit pas l'ancre. Mais l'ancre, elle est au fond, elle est accrochée. Puis ça ne va pas dériver. Hein. Et rappelez-vous ce que dit Paul, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est présent, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas genre, bah, écoutez, hein, attendez, puis en attendant, poup, poup, ceinture. Non, non, c'est attendez la vraie solution, mais en attendant, pour que vous puissiez rester, il y a l'amour de Dieu qui est là au quotidien. Si je le reçois, si je l'accepte, si j'y consens, si je le veux, si je n'accepte pas d'autres subterfuges. Et pendant ce temps, il y a l'ancre qui pénètre loin derrière, là où je ne peux pas voir et pas aller, et elle est accrochée, et c'est l'ancre solide de mon âme. Et qui fait que ben, je ne pars pas à la dérive, parce que sinon, ben, je partirai tout le temps, quoi. Et le terme là, ici, qui est utilisé, c'est superbe quand j'ai vu ça, utilisé comme précurseur. Hein. Et en fait, là, ça a été traduit précurseur, c'est bien, mais c'était tiré d'un terme de technique dans la marine. Vous savez, quand un bateau, à l'époque, il n'y avait pas des ports creusés où les bateaux pouvaient venir jusqu'au quai, comme ça. Hein. C'était les plages, hein, et puis des baies naturelles. Mais... Et donc, le bateau, il devait rester un peu au large, mais pour qu'il ne reparte pas, il fallait que l'ancre, elle soit à un autre endroit, quoi. Et donc, il y avait dans le bateau un petit bateau, une petite barque. On mettait l'ancre sur la petite barque, puis il y avait un bonhomme qui connaissait bien, là, et puis il partait avec, je ne sais pas, tout seul ou avec ses rames. Hein, et il allait jusqu'à l'endroit où c'était bien, et là, il posait l'ancre. Et après, on tendait le truc et le bateau, il était arrimé là où il fallait. Mais lui, il ne pouvait pas aller là où on posait l'ancre. Hein. Et c'est le mot qui est utilisé là, il vient de ça. Ce précurseur, en fait, c'est que Christ, on ne pouvait pas aller, nous, dans ce lieu très saint, ancré dans le cœur de Dieu. Alors, il a pris l'ancre sur lui, il a pris la petite barque, et puis il a été le maître. Et puis nous, on ne peut pas y aller, mais on a là, hop, on est relié à cette ancre-là, et puis ça tient. Hein, on voit pas. Et on a l'espérance et ce plan. Et ça, c'est magnifique. Et je termine avec une dernière image, peut-être elle ne parle qu'à moi, mais si vous avez vu, vu, le troisième film des Chroniques de Narnia, il y a une des images que j'aimerais regarder si je sais que je vais mourir dans quelques minutes. Et c'est le petit rat guerrier Rippy Chip qui a passé toute sa vie, c'était le guerrier, et puis il a son épée, et son épée c'est le truc, on peut tout lui prendre, même au moment où on lui coupe la queue, mais son épée, c'est son épée. Hein. Et puis il est sur le bateau qui voyage vers le pays d'Aslan, vers le ciel. Et là, le bateau ne peut pas aller plus loin, alors il prend sa petite coque de noix, et puis son épée, et puis il pagaie, et puis il arrive là, un moment, et il n'y a presque plus d'eau, et puis il y a ce grand mur liquide, et de l'autre côté, c'est le pays d'Aslan. Et là, il fait un truc incroyable, il prend son épée, et puis il la jette, et il franchit le mur. Et moi, ça, c'est trop beau, parce que c'est le dernier truc qu'il a toute sa vie, avec, c'est son épée, hein. Elle ne sert à rien pour là où il va. Quoi. Il n'a pas besoin de ça. Il la jette. Hein. Puis tous les autres ont peur. Quoi. Puis lui, c'est même pas peur. Hein. Il ne connaît pas. Hein. Il ne sait pas ce que c'est la peur. Quoi. Et il y a Aslan qui est là. Et puis il va dire, mais alors si tu vas là-bas, tu ne reviendras pas. Et lui, il est là avec le sourire jusqu'ici. Et puis il franchit le mur et il passe là. Hein. Parce que Christ a déjà été de l'autre côté. Il est revenu nous le dire. Hein. Ça, c'est ça notre espérance. C'est pas, ouais, on va aller à l'église le dimanche, on va chanter un petit cantique, peut-être on va construire un nouveau bâtiment, ouais, c'est motivant. Et puis si, on écrirait même un nouveau chant, j'ai un frisson. Non, bah, et je me moque pas, non, il faut des formes, il faut des trucs, moi j'aime quand ça. On a besoin d'un bâtiment, j'aimerais qu'on en ait un plus. Attention, je critique pas ça. Mais je veux dire juste, si on a que ça, mais c'est triste, c'est pas un puissant encouragement ça. Mais ce qu'on veut, c'est se dire, voilà, ben, on va tous arriver au bout du voyage, il y aura tout le moment où là, le bateau, il passe plus, il n'y a pas assez d'eau, on va devoir descendre tout seul dans la petite barque et puis ramer les derniers mètres. Et là, comment je vais vivre ça? Et je pense à Paul qui écrit à Timothée, il sait qu'on va lui couper la tête quelques jours après, ce n'est pas très agréable comme fin, hein. Encore qu'il y a pire. Hein. Mais voilà, et puis on a l'impression qu'il jubile presque. Hein. Les gars, ça y est, cette fois, je pars en vacances, à vous de vous débrouiller. Hein. Voilà, j'ai toujours été là, maintenant, ciao, hein. J'ai terminé le bon combat, j'y vais. Moi, ces deux images, Paul et Rippy Chip, elles se superposent comme ça avec... Salut les gars, vous voyez l'épée là, je ne l'ai jamais lâché, mais maintenant, même ça, pouf, tout seul, pouf, traverse le mur. Et là ouais, ça y est, on ne sait pas, nous, on n'y a pas été... Mais waouh, moi je veux vivre ça, sinon ça m'intéresse pas. Autre chose, moins que ça, c'est pas bien. Et je vous dis ça, je le vis presque jamais. Mais c'est quand même ce que je veux, parce que nous avons saisi l'espérance. Mais Paul dit, nous avons été saisis par Jésus-Christ. Hein. Nous, on tient l'espérance, mais lui, nous tient nous. En fait, notre espérance, elle est là. Alors c'est magnifique. Seigneur, on te demande que derrière tous ces mots, derrière ces images, derrière ces pauvres explications, toi, tu puisses saisir chacun de nos cœurs et puis qu'on puisse pas juste en parler, pas même l'expliquer, mais qu'on puisse le vivre. Donne-nous le courage de refuser les faux refuges, les fausses espérances, les mauvais bouche-trous et qu'on ait le courage de t'attendre toi. Et de se laisser remplir par toi, parce qu'il n'y a rien d'autre qui vaut le coup. Et qu'on puisse être encore une fois rempli, bouleversé, touché par ton amour d'une façon qu'on ne peut pas expliquer, mais que ben, on connaît et qu'on veut encore connaître toujours plus. Alors merci pour tout ça, merci pour qui tu es, merci pour cette espérance et pour la réalité de ton amour aujourd'hui dans nos vies.